Chaque semaine dans Transfert, nous vous faisons découvrir des histoires d'inconnus. Des récits inédits qui vous surprennent, vous émeuvent ou vous révoltent. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur un événement que nous avons tous vécu, de près ou de loin, il y a 8 ans. C'était un 13 novembre. La France assistait sidérée à la pire attaque terroriste de son histoire. Aucun d'entre nous n'a oublié ce soir-là, la douleur de tout un pays, les vies brisées de centaines de victimes. Après le temps du deuil et du recueillement, est venu celui de la justice. Ce temps, c'est celui que nous vous proposons de découvrir dans le premier épisode du podcast V13.
Dans V13, nous retraçons l'enquête tentaculaire pour identifier les coupables et nous racontons les préparatifs du plus grand procès pour terrorisme. Victimes, magistrats, policiers, avocats, journalistes et responsables politiques livrent tour à tour leurs témoignages sur cette nuit tragique et ses conséquences. Des premières menaces au procès, plongées au cœur de l'enquête des attentats du 13 novembre.
Vous écoutez V13, épisode 1, ce que nous redoutions depuis longtemps. L'enquête sur les attentats du 13 novembre a réellement débuté dès le début de l'année 2015 avec l'identification du djihadiste belgo-marocain Abdelhamid Abaoud, considéré comme très dangereux. Les services de renseignement le traquent sans parvenir à l'arrêter avant que ses commandos passent à l'action.
Le Stade de France a le coup d'envoi dans un instant. La finale aura lieu le 10 juillet 2016 du championnat d'Europe des Nations, alors que vous découvrez le capitaine. Tout devrait bien se passer ce soir face à l'équipe de France. C'est parti avec un coup d'envoi donné par les Allemands.
La première détonation fait surgir immédiatement l'idée que nous pouvons avoir dans le stade une bombe qui explose.
François Hollande, président de la République de 2012 à 2017.
Pendant quelques minutes, nous pensons que ça reste un pétard ou une bombe agricole à l'extérieur du stade. C'est au moment de la deuxième détonation que je n'ai plus de doute. Je prends conscience que nous sommes peut-être devant une opération beaucoup plus importante et qui n'est pas terminée. Je m'éclipse à la 60e minute du match et avec Bernard Cazeneuve, nous regagnons très rapidement Paris.
Très vite, nous apprenons qu'il y a des coups de feu dans les rues de Paris.
Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur de 2014 à 2016.
Et qu'à ce moment-là, nous sommes face à une attaque de masse.
J'ai été emporté par l'effroi quand j'ai su tout ce qui se produisait sans que je puisse le voir sur les terrasses et au Bataclan.
Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Il y a effectivement de quoi avoir peur, il y a l'effroi.
Je me rends ensuite sur place au Bataclan. Je vois des gens sortir du Bataclan. Ils sont encore là, blessés ou pas blessés, mais comme des fantômes qui sortent de ce lieu terrible.
Le 13 novembre est la soirée de ma vie qui ressemble le plus à la mort. Si la mort est partout.
Bernard Cazeneuve.
Et c'est très étrange comme sentiment. Soirée où la mort vous cerne.
On est dans des étiages qui sont... Là encore, je dis, c'est une violence inouïe, 130 morts, 700 blessés, c'est indescriptible.
François Molins, procureur de la République de Paris de 2011 à 2018.
C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous assaille. Nous savons d'où elle vient, qui sont ces criminels, qui sont ces terroristes.
Nous vivons cet événement avec le sentiment que survient ce soir-là ce que nous redoutions depuis longtemps.
La question n'était pas de savoir si la France était exposée à un risque majeur. On savait bien qu'on avait un risque d'une opération importante qui risquait de venir à l'extérieur. La question, c'était plutôt de savoir où, quand et comment.
Le 13 novembre fait partie de ma vie, mais le 13 novembre ne me définit pas. Ça ne définit pas qui je suis. Mais ça, je ne peux pas renier que ça fait partie de ma vie.
Aurélia Gilbert, rescapée du Bataclan.
Est-ce qu'il y a eu des choses que j'ai faites que je n'aurais pas faites sans le 13 novembre? Certainement. J'ai un fonctionnement un peu analytique. J'aime bien savoir qui fait quoi, pourquoi. Moi, ça m'intéresse de savoir qui a voulu nous tuer, quoi. Ça m'intéresse de savoir pourquoi. Et ça m'intéresse de savoir comment. L'idée de mes notes, c'est essayer de comprendre les donneurs d'ordre, l'origine, comprendre ce qu'était la structure au sein de l'État islamique qui a commandité, on peut le dire, les attentats, comprendre qui étaient les différents commandos, comment ils étaient constitués. Assez rapidement, je me rends compte que je vais avoir besoin de prendre un avocat. Parce que je me dis, sans doute y avoir un procès, même si je suis pas sûre qu'on attrape quelqu'un. J'ai besoin de savoir ce qui se passe.
En 2015, il va y avoir tellement d'attentats, tellement de besoins et finalement assez peu d'avocats qui sont en mesure de répondre à la fois à un flot de victimes, aux problèmes d'indemnisation, aux problèmes de pénal en France mais ailleurs.
Gérard Yemla, avocat de victimes du 13 novembre 2015.
Je me retrouve l'avocat de victimes d'attentats. C'est petit à petit, en travaillant les dossiers et en essayant de faire des liens d'un dossier à un autre, que je vais finir par comprendre que si ça arrive en France à ce moment-là, ça n'est pas finalement par hasard, et c'est le résultat d'un plan ourdi et concerté.
وإن إخوانكم المجاهدين قد من الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح ومكن لهم بعد سنين طويلة من الجهاد والصبر.
Au mois de juin 2014, le calife al-Baghdadi va proclamer donc le califat.
Mathieu Suc, journaliste à Mediapart et auteur de Les espions de la terreur.
Et ce qui n'était qu'une organisation terroriste devient un proto-État à cheval sur deux pays que sont la Syrie et l'Irak.
Ils sont lancés dans une véritable guerre pour occuper des territoires.
François Hollande.
C'est la première fois qu'une organisation terroriste, non seulement commet des attentats, agit contre un État, en l'occurrence l'Irak, mais occupe un territoire, occupe une ville.
Dans le courant de l'été 2014, une coalition internationale va se mettre à bombarder les territoires tenus par l'État islamique. Ça va occasionner beaucoup de dégâts. Cette organisation se doit donc de réagir. En septembre, le porte-parole de l'État islamique, Abu Mohammed al-Adnani, déclare entre autres « Si vous pouvez tuer un incroyant américain ou européen, en particulier les méchants et sales français, alors comptez sur Allah et tuez-le de n'importe quelle manière. Frappez sa tête avec une pierre, égorgez-le avec un couteau, écrasez-le avec sa voiture, jetez-le d'un lieu en hauteur, étranglez-le ou empoisonnez-le. »
Ce ne sont pas des paroles verbales. Ces individus commettent des crimes et des attaques extrêmement meurtrières en Irak et en Syrie. Nous savons donc que cette menace existe. Est-ce qu'elle peut prendre la forme d'attentats sur notre territoire? Nous ne pouvons pas en être certains. Nous ne savons pas encore quels sont les réseaux qui peuvent exister en France, en Belgique ou dans d'autres pays européens.
Au début, on n'a pas su trop appréhender ce qui se passait réellement en Syrie.
Christophe Tessier, juge d'instruction antiterroriste de 2009 à 2018.
Des commandos projetés, on les redoute, mais on n'y croit pas. Il faut être très, très clair. Certes, l'État islamique est déjà très implanté en Syrie et en Irak, mais on n'imagine pas véritablement qu'il ait une capacité de pouvoir projeter comme l'a fait Al-Qaïda le 11 septembre chez les Américains, un tel commando. C'est à partir de Verviers, qui se situe juste un petit peu après les attentats de Charlie Hebdo, que là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de différent. C'est le premier exemple concret de personnes qui viennent de Syrie et qui ont envie de commettre quelque chose sur le territoire national.
C'est un pays confronté, comme la France, à la menace terroriste, la Belgique. Plusieurs opérations antiterroristes ont été menées, notamment à Verviers, près de Liège, et à Bruxelles. Elles visent des groupes de djihadistes de retour de Syrie qui préparaient, selon les enquêteurs, plusieurs attentats.
Avec la séquence de Verviers, on est confronté à un changement de modus operandi qui prend de vitesse plus ou moins tous les services européens d'ailleurs.
Frédéric Van Leuf, procureur fédéral de Belgique.
Ces gens qui partent là-bas, ils peuvent revenir et ils peuvent être très dangereux. Et donc je pense que ce moment-là est le moment un peu charnière.
J'étais inspecteur principal pendant 15 ans au groupe d'intervention de la DSU. La DSU, c'est l'unité spéciale de la police fédérale en Belgique. C'est équivalent du GIGN en France.
Lionel D., ex-membre des DSU et co-auteur de Chasseurs de terroristes.
Il y a deux endroits, on va dire, cruciaux où il y a un nid de terroristes présumés, c'est-à-dire c'est à Bruxelles et à Verviers. À un certain moment, les enquêteurs arrivent à loger les terroristes, les protagonistes, à Verviers. Il y a des moyens techniques qui sont mis en œuvre. Ça tourne 24 heures sur 24 pour essayer un peu de voir ce qu'ils font et dans quelle direction ils vont. C'est des gens qui ne sortent pas beaucoup, ils sortent jamais à deux, ils sont très structurés, très bien organisés. C'est le mois de janvier, il fait sombre, il pleut souvent, il fait froid, donc ils mettent une casquette, un bonnet et on les voit pas trop. Les identités, à ce moment-là, on n'est pas sûr à 100%. Dans les écoutes, on se rend compte qu'en fait, les gars préparent vraiment quelque chose. Donc ça incite le parquet et la direction de nouveau à repasser une vitesse supérieure. Donc le jeudi, il y a toute une mise en place. Il y a les snipers de chez nous qui se mettent en place. Mais il y a aussi les collègues du GIGN qui s'y mettent aussi.
À un certain moment, on ne peut plus attendre. Il y a un troisième qui arrive dans la planque. On ne sait pas trop ce qu'il apporte et on ne peut pas se courir le risque de laisser sortir ces gens-là et donc on doit intervenir.
Vers 16h15, 16h30, on a le go, le feu vert, et là, l'assaut est donné. Dans la seconde, on se ramasse une rafale de Kalachnikov. Et là, on sent directement qu'on est tombé quand même sur des traits durs. Ils tirent. Bien sûr, nous, on riposte assez rapidement aussi. Dans les 30 premières secondes, le premier est éliminé. Par contre, il reste le deuxième qui est entre la partie avant de l'appartement et la partie arrière. Et lui, voilà, c'est un dur à cuire, il ne veut pas se laisser faire et il veut mourir là, c'est sûr et certain. Le sniper du GIGN propulse une grenade qui met le feu à l'appartement. Mais le gars, on le voit, on ne sait pas très bien le situer. En plus, il y a une évacuation de fumée qui se fait à l'avant et à l'arrière du bâtiment. Lui-même avance dans cette boule de feu, il avance. Et là, à un certain moment, il est à quelques mètres de notre équipe, de mon équipe. Il est à 7-8 mètres de mon équipe. Et là, on arrive à finir, on va dire, la mission. Et quand tout se calme un peu, après une minute et demie, tout à coup, il y a un des gars à l'arrière, un des snipers à l'arrière, qui voit une ombre dans ce dégagement de fumée. Et là, c'est le troisième qui venait de Bruxelles, qui se rend, en fait. L'enquête dira par après que dans les 24 heures, il voulait aller aussi faire un carnage en uniforme de police qui ont été aussi retrouvés dans l'appartement et se faire péter probablement avec une ceinture d'explosifs.
Donc nous savons depuis Verviers que nous sommes devant cette menace, non pas nouvelle, parce que la menace n'a jamais cessé, mais d'opérations de beaucoup plus grande envergure.
François Hollande.
La preuve, c'est que nous verrons que les individus qui étaient à Verviers ou autour de Verviers en Belgique, on les retrouvera dans ce qui s'est produit, Stade de France, Terrasse et Bataclan.
C'est le premier attentat où apparaît Abaout.
Christophe Tessier, juge d'instruction antiterroriste.
Hein, le nom d'Abaout apparaît à ce moment-là.
Abdelhamid Abaoun, c'est un jeune Belge qui a fait un petit peu de prison pour de menus larcins.
Mathieu Suc, journaliste à Mediapart.
Qui, certes, vient du quartier de Molenbeek, qui a tant effrayé la chronique, mais qui était fils de commerçant, donc issu de la classe moyenne ou classe supérieure. Quand il rejoint la Syrie, il va montrer un appétit pour les combats et pour les exactions diverses et variées qu'il va commettre. Mais par ailleurs, il va se servir de l'argent paternel pour financer des achats d'armes, ce qui va le faire aussi monter en grade.
Abaout est dans les fichiers parce qu'on sait qu'il est parti en Syrie.
Frédéric Van Leuf, procureur fédéral de Belgique.
On sait qu'il est revenu, qu'il a enlevé son petit frère donc, et qu'il l'a amené lui-même en Syrie.
Je vous renvoie à la vidéo dans laquelle il se met en scène au volant d'un pick-up en train de traîner des cadavres dans la campagne syrienne.
Il y a cette vidéo qu'on va voir partout où il tracte des corps de Syriens qu'il vient de tuer avec ses complices. Ce volontarisme, si j'ose dire, dans l'horreur, va le faire monter en grade au sein de l'État islamique.
Sa promotion provient de juillet 2014, où il est nommé émir au sein d'une katiba qui est la katiba El-Batar.
Aurélia Gilbert, rescapée du Bataclan.
Il prend à ce moment-là plus de 150 combattants sous ses ordres.
Abaout, on le connaissait déjà. Dans le cadre de ce dossier qui nous amène à Verviers, on apprend qu'il pourrait être à un poste où il tire un peu les ficelles et où il organise les choses.
Claude Fontaine, ancien directeur général de la police judiciaire fédérale belge.
Et donc, cette information, nous l'avons partagée avec l'ensemble de la communauté policière européenne.
Dans l'enquête, on nous dit effectivement que les gaz sont dirigés par quelqu'un qui est localisé et en Syrie et ou en Grèce, à Athènes plus précisément.
Les services finissent par comprendre qu'il est à Athènes. La police grecque va essayer d'arrêter Abaout. Ils étaient aidés de la DGSE, mais aussi des services américains et vraisemblablement du Mossad. Donc on a déjà là des moyens considérables qui montrent que les services ont pris la mesure du danger qui couvait, mais malheureusement, ça va échouer.
Le 15 janvier, quelques minutes après le coup d'assaut contre Verviers, les services grecs, ils font une sorte de coup de filet dans un quartier où le téléphone est géolocalisé.
Sébastien Pietrasanta, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015.
Sauf que le coup de filet est très important dans un quartier très fréquenté, il y a énormément de monde. Abaout lâche son téléphone, l'abandonne, il est retrouvé quelques jours plus tard et passe entre les mailles du filet.
Il rate Abaout. Apparemment, ça se joue à quelques minutes, enfin à quelques dizaines de minutes, mais il le rate et il redisparaît dans la nature.
Quelques semaines après, paraît dans le magazine Dabiq, qui est un magazine de propagande de l'État islamique, un interview d'Abaout qui se moque des forces de l'ordre européennes en disant « Regardez, je fais ce que je veux, je me déplace comme je veux en Europe, c'est une passoire. »
Mathieu Suc, journaliste à Mediapart.
Il va se vanter d'avoir réussi à se procurer des armes et à planifier des opérations contre les croisés. Les services vont découvrir dans un des appartements qui était une de ces planques à Athènes un ordinateur. Et dans cet ordinateur, les expertises vont permettre de découvrir un projet d'attentat qui vise l'aéroport de Zaventem en Belgique.
Dès janvier 2015, avec ce coup de filet de Verviers, Abaout apparaît comme quelqu'un de prioritaire pour la DGSE.
Cet individu, Abaoud, est repéré, mais ce serait d'ailleurs une faute de penser qu'il est le seul, puisque c'est une chaîne en réalité.
François Hollande.
Et il y a une hiérarchie plus ou moins explicite, mais il y a des chefs, des sous-chefs et des relais qui se font.
Cet attentat déjoué de Verviers montre déjà un premier degré de sophistication. On a Araka les cerveaux, à Athènes, le coordinateur opérationnel Abaoud, et en Belgique, une cellule de logistique et des tueurs. C'est malheureusement les prémices de ce qu'ils vont être capables de faire et de ce qu'ils vont réaliser le 13 novembre 2015.
Pour revenir à l'origine de d'où viennent les terroristes, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont été formés.
Aurélia Gilbert, rescapée du Bataclan.
Il faut revenir à la façon dont l'État islamique s'est structuré. Ce ne sont pas que des gens en sandales dans le désert. C'est une erreur de penser ça. Ce sont des gens qui ont des compétences de renseignement et des compétences d'organisation militaire.
L'État islamique va développer une police secrète donc qui s'appelle l'AMIAT. En arabe, ça désigne le mot sécurité ou secret aussi. Et donc, c'est le service secret fondé par l'État islamique pour tenir son territoire quand, à partir du moment où il a eu un territoire à défendre.
L'AMIAT est chaperonnée par le porte-parole de l'État islamique. Elle a un responsable qui est Abou Lokman. Et ils vont avoir ce qui nous va nous intéresser, une cellule spécifique qui va être chargée des opérations clandestines, ce qu'on appelle les OPEX, les opérations extérieures, en dehors des États contrôlés par l'État islamique.
Il y a un franco-algérien qui va être très important pour notre histoire, qui s'appelle Abdel Nasser Beni Youssef, donc qui est un ancien des camps d'Al-Qaïda, qui a été en Géorgie, qui voulait combattre en Tchétchénie, qui lui est vraisemblablement celui qui a eu l'idée et qui a dit « mais attendez, on va créer une cellule des opérations extérieures ».
Ben Youssef, il a vécu en France, il a des origines du côté de Villepinte, des Mureaux, il a un réseau.
Gérard Yemla, avocat de victime du 13 novembre 2015.
C'est lui qui est le patron des attentats. C'est vraiment un vieux routier.
Au côté de Ben Youssef, on trouve son ami Samir Nouad, qui est lui aussi algérien et lui aussi un ancien du GIA.
Et ensuite, il y a les deux lieutenants et amis très proches de Ben Youssef.
Mathieu Suc, journaliste à Mediapart.
Le franco-tunisien Boubaker El Hakim, qui avait été le premier français à rejoindre Al-Qaïda en Irak. Et le dernier, Oussama Attar, donc qui est un Belge, qui lui aussi avait rejoint les rangs d'Al-Qaïda en Irak dans les années 2000, qui aurait été en prison avec Al-Annani et même avec le futur calife. Pour résumer, il y a deux Algériens, Abdel Nasser Ben Youssef, Samir Nouad, un Franco-Tunisien, Boubaker El Hakim, et un Belge, Oussama Attar. Ce sont ces quatre hommes qui ont piloté tous les attentats ayant frappé l'Europe en 2015 et 2016.
On va avoir des gens qui sont très très organisés, qui ne se déplacent que cagoulés et qui sont des soldats extrêmement entraînés, d'une sauvagerie, et c'est souvent d'ailleurs comme ça qu'ils sont recrutés, d'une sauvagerie sans limite. Et parmi ces personnes-là, vous avez Abdelhamid Abaoud. Abaoud, c'est la cheville ouvrière, on va dire que c'est l'officier et que les autres sont les officiers supérieurs. C'est lui qui va recruter à la fois des Belges et des Français pour les renvoyer ensuite, en les accompagnant s'il le faut, sur le sol français et belge.
Donc après Verviers, en janvier 2015, l'AMIAT et sa branche OPEX va tenter plusieurs opérations.
Aurélia Gilbert, rescapé du Bataclan.
Celle principalement coordonnée par Abaoud, où il va projeter des jeunes recrues, qui ne sont pas des vétérans du tout du djihad, très motivés à commettre des attentats sur le sol français. Donc la deuxième après Verviers, c'est l'attentat de Villejuif, commis par Sid Ahmed Glam au mois d'avril 2015, au cours duquel Aurélie Châtelain trouvera la mort.
Sid Ahmed Glam, un jeune homme qui vit en France, il rêve de mourir en martyr depuis un certain temps. Il va se rendre en Syrie, il va rencontrer à ce moment-là Abdel Nasser Ben Youssef, Samir Nouad et Abdelhamid Abaoud. Et on l'envoie commettre un attentat en région parisienne. Ben Youssef lui indique, lui propose la gare de Villepinte. Pourquoi Villepinte ? Parce que Ben Youssef vient de Villepinte et il connaît la gare de Villepinte. Glam, très très discipliné, c'est un étudiant, il est opiniâtre, il bachote tout le temps, il écrit tout ce qu'on lui dit. Il va faire le tour des cibles, donc il va aller à Villepinte, et il va regarder la gare, il va prendre un film, il va mesurer le temps, puis il va dire mais c'est un peu embêtant parce que, un, il y a des caméras sur le parking, donc je risque d'être pris, et deux, il y a quand même beaucoup beaucoup d'Arabes. Et c'est quand même embêtant que nos victimes soient musulmanes. Et donc on va lui dire, mais cherche d'autres cibles. Et c'est lui qui va proposer comme cible une église.
Il s'appelle Sid Ahmed Glam, est âgé de 24 ans et projeté de commettre un attentat contre ces deux églises catholiques de Villejuif, en banlieue parisienne. Lorsqu'il a été interpellé, l'attaque était imminente, selon le ministre de l'Intérieur.
Il a été plutôt bon sur la phase repérage.
Mathieu Suc, journaliste à Mediapart.
Les seuls éléments qu'on a de lui, c'est quand il quittait sa résidence universitaire, il y avait une caméra dans le hall, on le voit partir. En revanche, il a été assez mauvais, et c'est une constante qu'on retrouve sur beaucoup d'attentats, dans la réalisation, c'est-à-dire qu'il va assassiner la malheureuse automobiliste, Aurélie Chatelain. En revanche, semble-t-il, en remettant son arme dans son jean, il n'a pas mis la sécurité, et il va se tirer une balle, et c'est ce qui va mettre fin à ce qui devait être le véritable attentat qu'il devait perpétrer, c'est-à-dire une tuerie dans une église.
Dimanche matin à Paris, dans le 13e arrondissement, la police a découvert dans le véhicule et au domicile d'un individu blessé par balle un arsenal composé notamment de plusieurs armes de guerre, d'armes de poing, de munitions, de gilets par balle et de matériel informatique et de téléphonie.
Ce qui est intéressant aussi dans l'affaire de l'attentat de Villejuif, c'est ce que les policiers vont trouver dans le véhicule de Glam. C'est un classeur vert. Dans ce classeur vert, il y avait des dizaines et des dizaines de pages manuscrites sur ce qu'il fallait faire et ne pas faire avant l'attentat, pendant l'attentat et après l'attentat.
Sur Villejuif, Nous voyons bien que s'il a pu rater son opération, ce qu'il avait en tête, c'était d'aller dans l'église et sans doute de faire un massacre.
François Hollande.
Donc c'est pas parce qu'une opération est ratée qu'il n'y a pas derrière un réseau qui a manqué son objectif, mais un réseau néanmoins extrêmement dangereux et sans doute assez ramifié.
L'attentat raté, encore une fois, selon l'État islamique, de Villejuif, va avoir des conséquences sur la cellule des OPEX. Abdel Nasser Ben Youssef, donc le concepteur, le fondateur de cette cellule, a été vraisemblablement écarté parce que certains s'étaient plaints en interne que ces apprentis terroristes n'étaient pas assez formés, qu'on les formait à la frontière ou pas assez longuement. Il va être mis sur la touche. C'est ses deux amis et un peu vraisemblablement lieutenant qu'étaient Boubacar El Hakim et Oussama Attar qui vont prendre sa place, prendre du galon et surtout mettre sur pied un projet d'attentat beaucoup plus ambitieux qui sera malheureusement celui du 13 novembre.
Il y a trois francophones qui ont été arrêtés durant l'été 2015 et qui ont parlé avec les services français.
Aurélia Gilbert, rescapée du Bataclan.
En premier, donc, il y a Nicolas Moreau qui a été expulsé et arrêté en 2015.
Nicolas Moreau est un Asiatique qui a grandi dans l'ouest de la France et qui a combattu en Syrie. Il a fait partie un peu des forces spéciales, vraisemblablement, de l'État islamique. Et cet homme, quand il rentre, au départ se tait, et un jour, pendant sa garde à vue, va prendre la parole et ne plus la lâcher. Et il va confirmer des choses que la DGSI pressentait. Il va leur parler de l'AMIAT, il va mettre un nom sur ce service de renseignement.
C'est le premier à parler, je crois, de l'AMIAT en tant que tel, un des premiers à en parler, expliquer qu'il y a cette cellule des opérations extérieures, parler du rôle d'Abaoud et d'Oussama Attar, commencer à parler de la route des migrants et expliquer qu'ils ont des dizaines de volontaires pour le djihad prêts à venir, qui sont occidentaux et prêts à venir mourir sur le sol français. Le second, chronologiquement, ça doit être Tyler Villus. Il tente de rejoindre l'Europe au mois de juillet 2015 et il prend l'avion à Istanbul avec un passeport suédois. En fait, sa photo n'est pas du tout ressemblante. Et la police de l'air et des frontières turques tique un peu et trouve un interlocuteur qui parle suédois. Et forcément, il ne sait pas répondre, il ne parle pas suédois.
C'est un Français que la DGSI avait dans son viseur. Il s'appelle Tyler Villus. Il a fait partie de la police de l'État islamique. Et par ailleurs, c'est l'homme qui a pris sous sa coupe un jeune Belge à son arrivée, qui est Abdelhamid Abaoud.
Quand il vit à Chahadi, là où habitaient les combattants français et belges, il travaillait au sein de la police islamique. Dans la même ville vivaient Ahmed Agad, Mostefa et Sami Amimour, donc les trois membres du commando du Bataclan.
Il est placé dans un centre de rétention. Il arrive à se procurer ou à conserver son téléphone et il va échanger avec Abaoud. Et il lui dit « Mais t'inquiète pas, dès que je sors, je tape. » Est-ce qu'il devait participer à un attentat tout seul comme lui le prétend? Ou, et c'est la grande question, est-ce qu'il devait être le 11e homme du commando du 13 novembre? Et s'il l'avait été, quel rôle il aurait joué? Car, je le rappelle, c'est lui qui a formé Abaoud. Et vu son parcours en Syrie, on le voit mal avoir un rôle de simple exécutant, si j'ose dire.
Le troisième à être arrêté durant l'été 2015 et à parler de la menace des attentats, c'est Reda Ham. Et il va le dire, j'ai été clairement mandaté par Abdelhamid Abaoud, j'ai été formé dans un centre spécial lié à préparer et commettre des attentats en Europe, une formation aux armes, une formation aux explosifs, une formation aussi à la communication cryptée.
Quand la DGSI lui demande « Êtes-vous au courant d'une possible attaque en France ?», il explique qu'à l'heure actuelle, à Raqqa, c'est une usine, à Kamikaze, ils arrivent.
Il nous dit, voilà, il y a une soixantaine d'opérationnels qui sont sur quatre pays.
Frédéric Van Leuf, procureur fédéral de Belgique.
Mais c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, parce que nous avons à ce moment-là plus ou moins 5000 combattants étrangers d'origine européenne qui sont sur les lieux.
Redam, il donne une indication supplémentaire, c'est une cible potentielle. Il dit que Abaoud lui a dit de choisir une cible facile, un concert par exemple, là où il y a du monde. Il m'a précisé que le mieux après, c'était d'attendre les forces d'intervention sur place et de mourir en combattant avec des otages. Soit exactement le programme que vont appliquer les trois terroristes, les trois tueurs au Bataclan.
On voit successivement à travers les différentes auditions de revenants que le rôle un peu plus précis d'Abaoud, en tout cas, le rôle plus central d'Abaoud et le risque que ça peut engendrer.
Sébastien Pietrasanta, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015.
Non, on ne sait pas où il est. Et c'est ça le pire, c'est qu'il a été logé en Grèce en janvier 2015. Et après, personne ne sait où il est. Il est dans la nature.
On commence à chercher plus ou moins dans tous les sens. Et je dois avouer que quand il se passe quelque chose sur le Thalys, on n'est pas étonné.
Frédéric Van Leuf, procureur fédéral de Belgique.
Le Thalys, c'est une succession de miracles si cet attentat est déjoué.
Mathieu Suc, journaliste à Mediapart.
Un djihadiste al-Kazani monte dans le Thalys à Bruxelles, va aux toilettes pour sortir de son sac ses armes. Il a une kalachnikov. Quand Kazani sort, il y a quelqu'un qui voulait aller aux toilettes, qui voit cet homme armé, qui essaye de le retenir, ça le ralentit. Là, il y a ces militaires américains qui ont compris que quelque chose n'allait pas. Il a déjà tiré un premier coup de feu. Autre coup de chance, la Kalachnikov, qui est réputée ne jamais s'enrayer, s'enraye.
S'il n'avait pas été neutralisé par ces Américains et par aussi des Français, car il faut aussi reconnaître qu'il y a eu des voyageurs extrêmement courageux,
François Hollande,
cet individu aurait créé un carnage dans le train.
Saisi par les policiers, un arsenal de guerre, fusil d'assaut Kalachnikov, pistolet automatique. Le terroriste présumé avait de quoi tuer des dizaines de personnes.
On voit ce risque d'attaque d'un train. On voit ce risque d'attaque d'un concert de rock.
Gérard Yemla, avocat de victimes du 13 novembre 2015.
On sait que c'est dans les projets de l'État islamique. On commence à avoir quelques éléments, mais on ne sait pas quand ni où les choses vont intervenir.
Fin août, on a tout ce passif et toute cette menace qui est en train de monter.
Aurélia Gilbert, rescapée du Bataclan.
Et il est clair que les services sont très inquiets. Le ministre de l'Intérieur et le président de la République sont au courant.
Quand on interroge pareil Patrick Alvar, le patron de la DGSI, dit « La dangerosité d'Abaou dès l'été 2015, en indiquant que cet individu était impliqué dans de nombreux projets avortés, c'était après l'attaque du Thalys, nous savions pertinemment qu'Abaou avait joué un rôle dans plusieurs affaires, dans l'affaire Glam, et nous l'avons donc signalé. »
Sébastien Pietrasanta, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015.
Oui, il est identifié déjà depuis plusieurs mois, après le Thalys, mais on peut dire après Verviers aussi, il est déjà dans notre zone de surveillance. Après, on peut savoir que cet individu joue un rôle important dans le réseau. Après, où est l'individu en question ?
Paris va peut-être changer de stratégie face au groupe État islamique. La France devrait bientôt frapper les djihadistes en Syrie, c'est ce qu'indiquent nos confrères du journal Le Monde.
La question a été abordée hier lors d'un conseil restreint de défense à l'Élysée. L'entourage du chef de l'État ne confirme rien.
Le 4 septembre 2015, à l'issue d'un conseil de défense en présence du président François Hollande, la DGSE va faire un message interne dans lequel il est écrit « La neutralisation d'Abdelhamid Abaoud, vecteur d'une menace avérée contre notre territoire, est devenue une priorité urgente pour le service ».
Les services de renseignement nous communiquent des informations qui sont parcellaires, mais qui toutes convergent pour indiquer la dangerosité de l'individu.
Bernard Cazeneuve.
Et qui toutes convergent pour dire que nous devons procéder à sa neutralisation.
J'ai demandé au ministre de la Défense que dès demain puissent être menés des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie. Ils permettront d'envisager des frappes contre Daesh en préservant notre autonomie de décision et d'action.
La France a frappé en Syrie cette nuit. La France a frappé Daesh en Syrie cette nuit, à Raqqa.
Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense de 2012 à 2017.
Nous avons frappé parce que nous savons qu'il y a en Syrie, en particulier dans les environs de Raqqa, des centres d'entraînement de combattants étrangers dont la mission n'est pas d'aller combattre pour Daesh sur le Levant, mais de venir en France, en Europe, pour commettre des attentats.
C'est une action qui est globale.
François Hollande.
Nous ne réagissons pas simplement parce que nous aurions des terroristes identifiés sur tel ou tel lieu. Ça a pu arriver plus tard. Mais dans la décision que je prends, c'est une décision stratégique. Nous savons qu'il y a, à Raqqa notamment, des immeubles qui servent justement à accueillir un certain nombre de personnes qui nous veulent directement du mal.
Et vous êtes sûr qu'il y a eu des victimes djihadistes que vous avez tirées, puisque c'était la nuit qu'il y avait...
Je ne commande jamais, nulle part, les résultats des frappes que nous effectuons,
mais je peux vous dire que l'objectif a été atteint.
Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense de 2012 à 2017.
Ces frappes de l'automne 2015 sont cibles des djihadistes supposés préparer des attentats visant la France.
Mathieu Suc, journaliste à Mediapart.
Un djihadiste français, le nom d'un djihadiste français va être révélé par le journal Le Monde. Mais en fait, il y avait une autre cible dont le nom a été soigneusement tu. C'était Abdelhamid Abaoud, qui était la vraie priorité des services. Ils n'ont pas compris à cette époque que Abaoud avait quitté la Syrie et pour rejoindre l'Europe. À telle enseigne que le 3 novembre 2015, donc 10 jours avant les attentats, la DGSE écrit que Abaoud se déplacerait souvent entre Deir ez-Zor et la ville de Mayadine. Donc on est quand même très très loin d'Abdelhamid Abaoud qui alors à cette heure-là se trouve dans les environs de Bruxelles.
Alors que les enquêteurs pensent que Abdelhamid Abaoud est en Syrie, c'est une cible, c'est un danger pour l'Europe.
Aurélia Gilbert, rescapée du Bataclan.
Et qu'ils essaient de mettre leur taupe, de mettre le renseignement, le paquet en Syrie. À ce moment-là, Abdelhamid Abaoud est remonté et il se cache à Bruxelles. Abaoud a décidé, vu les précédentes attaques, comment ça s'était passé, il décide de se présenter lui-même et de venir lui-même préparer la prochaine vague d'attaque. Il quitte la Syrie, il passe par la Turquie, il passe donc par la route des migrants, il arrive en Grèce, et avec l'auteur du Thalys, il passe certainement par un centre de migrants où ses papiers passent à travers, il n'y a pas de photos, il y a des ratés à ce moment-là. Il remonte par la route des Balkans, on sait qu'ils sont le premier route en Hongrie.
Il est rentré en Europe avec El Kazani, donc le futur terroriste du Thalys, et qu'il avait envoyé en éclaireur un jeune qui prenait la route des migrants et ils échangeaient ensemble en lui disant « bah tiens, cette route-là, c'est sûr, bah tiens, là en Hongrie, faut faire ci ou faut faire ça ». Et voilà, il lui ouvrait la voie pour être à chaque fois dans des conditions de sécurité maximum.
On a raté Abaoud, c'est clair. Même si Abaoud, ce n'est pas le grand chef, Abaoud, c'est celui qui bouge, c'est celui qui encadre et c'est celui qu'on pouvait attraper.
Gérard Yemla, avocat de victime du 13 novembre 2015.
Donc les dysfonctionnements, il est fort possible qu'il y en ait. Et le procès devrait être le lieu où ces questions seront posées.
Abaoud va se retrouver dans un appartement avec Kazani et son jeune éclaireur qui devait vraisemblablement participer à l'attentat du Thalys. Et à partir de ce moment-là, il y a un trou. On n'a pas su reconstituer l'itinéraire d'Abaoud entre courant août et les derniers jours qui précèdent le 13 novembre.
À ce moment-là, c'est un grand désordre en Syrie, c'est épouvantable. L'ouverture des routes pour les migrants va être mise à profit par l'État islamique qui se dit « c'est ça notre solution ». On va suivre les chemins des migrants et donc on n'a plus de problème de papier finalement. On n'a plus besoin de gens qui ont des passeports en règle ou ont des passeports européens. On va pouvoir avoir des passeports syriens et on va envoyer plusieurs dizaines de personnes vers la France.
Après Villejuif, après Redam qui se fait arrêter, après Verviers et après le Thalys.
Aurélia Gilbert, rescapée du Bataclan.
Là, il y a une volonté très claire de l'État islamique de faire monter d'un niveau les compétences des troupes.
On envoie des guerriers chevronnés et aguerris qui ont tous un passé militaire au sein de l'État islamique. Et puis, comme on a envoyé plein de gens, on va pouvoir organiser un attentat avec beaucoup de monde et une véritable organisation en commando.
C'est de loin la menace la plus structurée, avec les gens les plus aguerris, à laquelle on a eu affaire.
Claude Fontaine, ancien directeur général de la police judiciaire fédérale belge.
C'était des hommes d'action qui étaient aussi soutenus, qui étaient soutenus aussi par des secteurs de la criminalité organisée. Je parle au trafic d'armes, je parle de faux papiers, je parle de ce genre de choses.
Pendant cet automne 2015, il y a des individus qui, avec des faux passeports,
Bernard Cazeneuve,
parviennent à partir de la Grèce à rentrer dans l'Union européenne, qui ont un cheminement qui a été reconstitué par l'enquête, qui séjournent notamment en Belgique assez longtemps, dans les quartiers de Molenbeek, et n'arrivent pour la commission de l'attentat de novembre 2015 qu'à la dernière minute.
Le 12 novembre, il y a différents groupes parmi les attaquants du 13 novembre qui se forment et qui vont partir avec trois voitures différentes pour Paris. Donc il y a un premier groupe qui est dans une polo, qu'on appelle le groupe des Français. Il semble assez clair depuis le début que c'est eux qui vont attaquer le Bataclan, ils le savent. Ensuite, il y a une deuxième voiture qui est une Clio, dans laquelle se trouvent les frères Abdeslam et leur ami Abrini. Donc ce sont les Belges qui sont amis, qui se connaissent bien. Et il y a une dernière voiture qui est la SEAT, dans laquelle se trouve le coordinateur, donc Abdelhamid Abaoud, Chaki Bakrou. Et dans cette SEAT se trouvent également deux Irakiens, qui seront les deux terroristes qui se feront sauter au Stade de France.
Ma fille, elle va venir, elle va déjeuner. Je me souviens encore quand je lui dis vendredi 13 et elle m'a fait comme ça.
Nadia et Jean-François, parents de Lamia, décédés à la Belle Équipe.
Et ce geste comme ça, je disais à Jean-François, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je ne me rappelle pas. Elle voulait dire je n'aime pas.
C'était une belle journée. Il faisait doux. C'était la fin de semaine. On était contents d'aller au concert.
Aurélia Gilbert, rescapée du Bataclan.
Et on s'est retrouvés dans la soirée, juste à côté du Bataclan, avec l'idée de passer une bonne soirée ensemble.
Vous venez d'écouter un épisode réservé aux abonnés de Docurama. Vous pouvez écouter tous nos autres podcasts documentaires sur docurama.audio ou sur votre plateforme d'écoute préférée. V13 est un podcast coproduit par Initial Studio et Cuive. Adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme coproduite par Cuive et LCP. Écrite et réalisée par Théo Ivanez et Vincent Nouzille. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Morgane Perret.